Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Est-ce la fin du mystère de la disparition de Maddy McCann, 3 ans, en mai 2007 au Portugal? La justice allemande affirme que les enquêteurs détiennent des preuves de la mort de la fillette. Ils ont également un suspect, Christian B., un prédateur sexuel déjà emprisonné en Allemagne dans une autre affaire.
Peut-être la fin du mystère de la disparition de la petite Maddy McCann il y a 13 ans au Portugal.
O desaparecimento de Madeleine McCann voltou a ser notícia a 3 de junho.
It's reported the suspect is being named as Christian B., a 43-year-old man who's believed to have been in the same area where 3-year-old Madeleine went missing while on holiday in 2007.
Et pourtant, au Portugal, une grande partie de l'opinion publique soupçonne toujours les parents de Maddy. Récit de Timothée Boutry, du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, vous suivez cette affaire pour le Parisien depuis le début, vous vous êtes rendu au Portugal en 2007. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle passionne autant ?
Elle passionne déjà parce qu'elle concerne la disparition d'un enfant et tous les faits divers qui concernent des enfants ont une charge émotionnelle beaucoup plus importante. Elle passionne aussi parce qu'elle a pris une dimension mondiale. Tout le monde connaît Maddy, notamment grâce à l'implication de ses parents qui n'ont eu de cesse depuis la disparition de faire vivre cette histoire, de relancer des appels à témoins régulièrement. Tout le monde connaît un peu le visage de cette petite fille. Il y a un mystère. Ça fait 13 ans, on ne sait toujours pas où elle est. Il y a eu énormément de pistes, de fausses pistes. Et donc, évidemment, tout le monde est tenu en haleine et veut savoir ce qui s'est passé ce jour-là dans cette station balnéaire du Portugal.
Décrivez-nous la petite Maddy, à quoi ça ressemble ?
C'est une charmante petite fille de 3 ans qui va bientôt avoir 4 ans au moment de sa disparition. Elle a des cheveux blonds, coupés au carré, des yeux clairs. Alors elle apparaît sur des photos souriantes, effectivement très mignonne, le visage de l'angélisme.
Le 28 avril 2007, la famille McCann arrive en vacances à Praia da Luz, dans le sud du Portugal.
Ils séjournent à l'Ocean Club, c'est une résidence hôtelière de cette station balnéaire. C'est une station balnéaire qui est située en Algarve, au sud du Portugal, près de Faro. C'est assez joli, c'est très prisé des touristes britanniques notamment. C'est pas un hôtel, puisque en fait, les résidents habitent dans des appartements. Alors celui des McCann, le 5B, il est accessible depuis la route en fait. On peut se garer devant, rentrer. Il y a une terrasse, c'est rattaché à un complexe avec piscine, restaurant. Mais pour y accéder, il faut sortir, marcher et re-rentrer en fait. C'est pas un espace totalement clos.
Décrivez-nous la famille McCann.
Jerry et Kate McCann, les parents de Maddy, c'est un couple de médecins britanniques qui vivent dans le nord de l'Angleterre, donc plutôt des gens qui ont une surface financière importante, enfin voilà, plutôt la bourgeoisie anglaise.
Ils ont 3 enfants ?
Oui, 3 enfants, Maddy et 2 jumeaux, Sean et Amélie, qui sont âgés de 2 ans en 2007.
Le 3 mai, au soir, vers 19h, avant d'aller dîner avec des amis, Kate et Jerry mettent leurs 3 enfants au lit.
Oui, c'est ça, parce qu'ils se trouvent à Praia da Luz avec plusieurs amis anglais, ils sont partis ensemble, et donc ce soir-là, ils ont prévu de dîner au restaurant de tapas qui se trouve au bord de la piscine. C'est vraiment juste à côté, quand on est au bord de la piscine, sur la terrasse du restaurant, on voit la terrasse de l'appartement où sont les enfants, en fait. Et quand on est à la terrasse, on voit la piscine. Enfin, la spécificité, c'est que cet espace n'est pas entièrement clôturé, on passe par l'extérieur.
Le père vient vérifier si tout va bien peu après 9h.
Oui, c'est ça, vers 21h, 21h05, Jerry McCann va faire un tour et constate qu'il n'y a rien à signaler, les enfants sont en train de dormir dans l'appartement.
Vers 22h, c'est au tour de Kate de vérifier que tout va bien.
C'est le point de départ de cette affaire, puisque Kate McCann se rend compte que Maddy a disparu, elle dit que les fenêtres sont ouvertes, que la porte aussi, et elle crie, ils l'ont enlevé, et voilà, elle prévient son mari, les amis, et ils se mettent à la rechercher, puis très vite, on la trouve pas, donc la police est prévenue.
Que pensent les policiers dans un premier temps ?
On peut imaginer que les policiers pensent plutôt à une fugue et pas forcément à un enlèvement. Enfin, ils restent sur place et il y a des recherches qui sont faites, des habitants qui participent. Enfin, c'est pris au sérieux quand même.
Les recherches durent toute la nuit jusqu'au petit matin, en vain, et très vite, les enquêteurs vont finalement penser à un enlèvement.
Oui, c'est effectivement l'autre option, puisque si pas de fugue, si on la retrouve pas, y a peu de raisons d'imaginer que cette petite fille soit partie. Elle a 3 ans, ses parents sont juste à côté, ses frères jumeaux dorment dans la pièce à côté. Enfin, ça paraissait peu envisageable. Donc, si on la retrouve pas, s'il n'y a pas de traces évidentes d'accident, forcément, il y a une hypothèse criminelle qui se dégage assez vite.
Et à l'étranger, jamais l'enlèvement d'un enfant n'aura suscité autant de mobilisation en Angleterre.
Le 9 mai, 6 jours après la disparition de la petite Maddy, une alerte est lancée par Interpol et à ce moment-là, l'affaire va être largement médiatisée.
Son petit visage est affiché partout, en Grande-Bretagne et au Portugal. Maddy fait la une des journaux. La mobilisation est impressionnante.
Elle est médiatisée aussi parce que les parents s'expriment et que la presse britannique, dès le départ, est extrêmement investie sur cette histoire. Il y a vraiment eu énormément d'articles et aussi le fait que les parents s'expriment publiquement, très vite, en demandant à quiconque qui a des nouvelles potentielles de fournir cette information.
Quelques semaines après la disparition de Maddy, ils vont être reçus par le pape Benoît XVI au Vatican.
Oui, ça fait partie des éléments qui ont fait de ce fait divers un fait divers hors norme, puisque le pape, c'est évidemment une autorité mondiale, donc ça donne une caisse de résonance exceptionnelle à cette affaire, et c'est pas le seul, ils vont faire appel à des célébrités, David Beckham, Richard Branson, Cristiano Ronaldo, enfin, il y a eu des lâchers de ballons dans le monde entier, enfin, c'est ça qui est très singulier avec cette affaire. Elle a pris une tournure mondiale parce que on en a parlé, beaucoup de gens se sont impliqués, alors c'est vrai que cette histoire-là, elle a vraiment pris une dimension planétaire.
Comment est-ce que les parents gèrent leur communication ?
Outre leurs nombreuses interventions médiatiques, ils ont créé un site internet qui est très régulièrement alimenté, donc qui est très précis. Et puis, c'est aussi par ce biais-là qu'ils communiquent à tout le monde. Ils mettent des communiqués eux-mêmes, au fur et à mesure des différentes étapes de l'enquête, leurs réactions apparaissent. Ils ont aussi pris attache avec un chargé de communication qui va gérer tout cet aspect-là de manière très professionnelle.
Bien sûr, nous ne savons pas comment ça s'est passé, ce qui lui est arrivé. Bien sûr, nous y avons pensé, mais je n'accepterai pas la mort de Madeleine tant que nous n'aurons pas la preuve de cela.
Ils lancent aussi des cagnottes pour financer leurs recherches, engager des détectives. La véritable investigation est menée par la police portugaise et les enquêteurs vont avoir un suspect.
Oui, assez vite, la police portugaise et la justice vont mettre en examen un homme qui s'appelle Robert Murat. C'est un Britannique divorcé qui vit à Praia da Luz avec sa mère. C'est un agent immobilier. Lui, il est totalement bilingue portugais-anglais et il va très vite offrir son aide. Il va faire de la traduction entre les policiers et les parents et les gens qui sont présents. Donc, il a cette image de bon samaritain, mais paradoxalement, son investissement va se retourner contre lui parce que on va trouver que c'est bizarre, il en fait beaucoup. Il y a des témoignages qui disent il était à côté à ce moment-là de la disparition, alors il habite juste à côté, donc ça pourrait s'expliquer, mais toujours est-il qu'il va être mis en examen par la justice portugaise, il va y avoir des fouilles qui vont être effectuées chez lui, des recherches, vraiment on va explorer énormément de choses, la presse britannique va en faire énormément sur lui, assez vite on va se rendre compte qu'il n'y a absolument rien du tout qui ne le lie à la disparition de Maddy et va être mis hors de cause. Mais ça a été extrêmement dur pour lui parce qu'il a été totalement mis à nu dans le cadre de cette enquête.
Il va y avoir d'autres hypothèses. On a par exemple évoqué à ce moment-là l'hypothèse d'un réseau pédophile.
Oui, c'est un peu le fantasme permanent dans cette affaire, comme souvent dans d'autres affaires similaires. Ça fait partie des pistes qu'on évoque, trafic d'êtres humains, réseau de prostitution. Il n'y a pas grand-chose qui permet d'étayer ça, mais ça fait partie des hypothèses, donc ça ressort régulièrement et c'est ressorti là aussi.
Rebondissement, en septembre 2007, 6 mois après la disparition de la petite Maddy, ses deux parents sont mis en examen.
C'est plus qu'un rebondissement, c'est un coup de tonnerre, c'est un séisme, c'est vertigineux. Puisque, bon, bah, au départ, on a la disparition de cette petite fille, c'est tragique. On a des parents qui sont omniprésents, les médias, le pape, enfin, ils incarnent autant que leur petite fille ce drame, en fait. Ils se sont investis énormément. Et d'un seul coup, on les considère comme suspects. Alors, il y en a eu des affaires comme celle-là. Mais c'est vrai que là, on tombe totalement dénu, puisque les parents se sont tellement investis depuis la disparition de leur petite fille que c'est vraiment vertigineux, cette mise en cause.
Son visage ne laisse transparaître aucune émotion. Après un deuxième interrogatoire en moins de 24 heures, la mère de Mahdi est mise en examen.
Pourquoi est-ce qu'ils sont mis en examen ?
Alors, ce sont des éléments de police technique et scientifique. C'est notamment la découverte de traces infimes de sang dans l'appartement par des chiens spécialisés qui éveillent les soupçons et également la découverte, là encore, de traces infimes de sang ou de traces biologiques dans le coffre d'une voiture de location qu'ils avaient louée un mois après la disparition. Donc, c'est échafaud de l'hypothèse qu'ils aient pu transporter le corps de leur petite fille.
Quel serait le scénario ?
Aux yeux des enquêteurs, il s'agirait d'un accident domestique. On n'imagine pas qu'ils aient volontairement donné la mort à leur fille, mais qu'il serait passé quelque chose dans l'appartement, ou alors peut-être qu'il lui avait donné des médicaments pour dormir et qu'elle ne s'est pas réveillée, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un problème, et pour masquer ça, ils ont fait disparaître le corps. Donc c'est le scénario des enquêteurs.
Comment réagissent les parents ?
Évidemment, ils hurlent, ils crient leur innocence. Pour eux, ils se disent outragés d'avoir été mis en cause. Mais ça va avoir une conséquence, c'est que depuis la disparition de Mahdi, ils étaient restés au Portugal et là, ils vont repartir en Angleterre parce que le contrôle judiciaire leur permet de quitter le pays même s'ils sont mis en cause.
Et pourtant, les enquêteurs vont avoir du mal à trouver des preuves contre les parents de Mahdi.
Oui, à tel point que assez vite, finalement, ils vont être innocentés et les tests, on va se rendre compte qu'ils n'étaient pas forcément très fiables et qu'on peut pas vraiment relier ces traces à Mahdi et donc il n'y a pas grand-chose qui les accroche en fait avec cette histoire. Donc on était plutôt sur un scénario, une construction que sur des éléments probants à même de les confondre, quoi. Donc cette piste assez dingue de la mise en cause des parents, elle va finalement assez vite être évacuée.
Timothée Boutry, c'est à cette période que vous allez au Portugal pour la première fois pour couvrir cette affaire. À ce moment-là, quel est le sentiment des Portugais ?
Ça va être évidemment de se poser beaucoup de questions sur les parents puisque on est sur leur mise en examen. Donc on est vraiment dans une séquence hostile au McCann et on leur reproche beaucoup d'avoir laissé leurs enfants seuls pour aller dîner. Et donc ça, c'est de nature à renforcer la suspicion que beaucoup de Portugais peuvent avoir quant à leur éventuelle implication dans cette disparition.
Comment est-ce qu'ils réagissent les parents de Mahdi après cette séquence ?
Forcément soulagés d'avoir été mis hors de cause. On peut penser qu'ils ont été extrêmement amers de l'avoir été, mais en tout cas, ils vont continuer à faire vivre cette histoire, à alimenter le site, à donner des interviews. Donc voilà, leur implication, leur investissement ne va pas s'arrêter.
Le 21 juillet 2008, plus d'un an après la disparition de Mahdi, la justice portugaise clôt l'enquête.
Il n'y a aucun suspect, l'enquête est clôturée, c'est un mystère total.
Pourtant, le responsable de l'enquête au Portugal continue d'accuser les parents et notamment la mère, Kate.
Oui, cet homme s'appelle Gonçalo Amaral, c'était le patron de la PJ de Portimao à l'époque, et il écrit un livre qui est traduit dans différents pays, dont la France, et moi je l'avais rencontré à l'époque quand son livre était sorti en français, et il est convaincu de la thèse initiale des enquêteurs portugais, à savoir un accident domestique que les parents ont caché ensuite. Il l'écrit dans son livre, il pointe une série d'éléments troublants, mais voilà, selon lui, c'est ça qui s'est passé, les parents savent quelque chose, les parents ne disent pas tout, voilà, c'est son credo.
De quels éléments ils disposent contre les parents ?
Ils pointent une série de contradictions entre leurs déclarations, entre les leurs et celles des amis avec qui ils sont en train de dîner. Ils expliquent aussi qu'il y a une trace, une empreinte de Kate McCann sur la fenêtre de l'appartement, donc que ce serait elle qui l'aurait ouverte alors qu'elle déclare qu'elle était ouverte quand elle est arrivée dans la chambre quand elle a découvert la disparition. Il évoque aussi les hypothèses d'odeur de cadavre et de traces de sang qui ont été retrouvées à la fois dans l'appartement et dans la voiture. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'ils considèrent que les parents sont impliqués et en fait qu'ils ont voulu masquer une mort accidentelle et qu'ils ont voulu orienter l'enquête dès le départ vers la piste du kidnapping.
L'enquête est rouverte en mai 2011 par par la police britannique, Scotland Yard.
Ça tient là encore à l'implication des parents de Maddy qui ont écrit une lettre ouverte à David Cameron, le Premier ministre de l'époque, où ils l'implorent de rouvrir l'enquête en disant « voilà, il y a une enfant qui a disparu, qui n'est plus là, une petite Britannique ». Et David Cameron va y être sensible et va ordonner la réouverture de l'enquête. Donc ça montre aussi le poids qu'ils ont acquis au sein de l'opinion publique anglaise et la force de leur combat, qui est capable d'atteindre le Premier ministre et de faire en sorte que lui-même demande de rouvrir l'enquête.
Et que va donner le travail de Scotland Yard ?
En fait, un an plus tard, Scotland Yard va livrer les premières conclusions de la réouverture. Et ils vont indiquer que, selon eux, il y a des éléments qui permettent de dire qu'elle est toujours en vie. On peut aussi dire que peut-être elle est morte, mais quand même, ils ont des éléments pour dire qu'elle est toujours en vie et qu'il existe 195 pistes inexploitées et qu'il va falloir creuser. Donc voilà, ils entretiennent l'idée d'une part sur laquelle elle pourrait toujours être en vie et qu'en tout cas, il y a du grain à moudre et que tout n'a pas été fait. Et voilà, ils ont traduit toutes les pièces du dossier en anglais et qu'il y a des investigations qui doivent être faites ou alors refaites.
Soyons clairs, les parents, à ce moment-là, ils se battent pour retrouver leur fille.
Depuis le début, c'est la même chose. Les parents de Maddy espèrent la retrouver vivante et n'abandonnent pas ce combat et veulent que les autorités compétentes reprennent les enquêtes, poursuivent les investigations. Et c'est ce qu'ils ont obtenu du pouvoir politique anglais. Et c'est vraiment un combat qu'ils n'ont jamais abandonné.
Et pendant des années, il va y avoir une succession de pseudo-rebondissements et de fausses pistes.
On va voir Maddy partout, dans l'Himalaya, dans un fast-food du 15e arrondissement de Paris, au Maroc. Enfin, sa photo a été diffusée dans tellement d'endroits. Tout le monde connaît un peu Maddy, que forcément, tout le monde la voit. C'est assez classique, là encore, dans ce genre d'affaires. Mais à chaque fois, c'est des vérifications à faire et qui ne donnent pas grand-chose. Alors, en 2015, il y a un Australien qui a découvert une valise avec un cadavre d'enfant à l'intérieur. C'est sinistre. On va se dire, peut-être c'est Maddy. Rapidement, on se rend compte que ce n'est pas du tout elle et que c'est une autre affaire tragique. Mais cette affaire, elle a pris une telle ampleur que forcément, elle va être rythmée par une succession de rebondissements et de fausses pistes.
Timothée Boutry, on en vient au tout dernier développement de cette affaire. Le jeudi 4 juin 2020, la police allemande annonce avoir identifié un suspect sérieux.
Là encore, c'est l'autre moment vertigineux de cette affaire, après la mise en cause des parents. Là, on a un suspect, alors c'est le parquet allemand qui parle, alors c'est ni les Portugais, ni les Anglais, donc c'est un nouveau pays qui rentre en jeu. On s'y attend pas du tout, ça tombe du ciel. On n'était pas dans une séquence, on se dit, tiens, ça bouge sur Maddy, on sait qu'il y a quelque chose, on attendait une communication du parquet allemand. Voilà. Personne n'imaginait un seul instant que le parquet allemand se mette à communiquer sur cette affaire. Et là, ils sont très précis. Ils disent, il y a un Allemand, il s'appelle Christian B. Il est actuellement en prison en Allemagne, c'est un de nos ressortissants. Et on a des bonnes raisons de penser qu'il est impliqué dans la disparition de Maddy et on considère même que c'est un meurtre. Il révèle aussi que, selon les relevés téléphoniques, ils savent que Christian B. était à Praia da Luz, à proximité de l'Ocean Club, le 3 mai 2007, le jour de la disparition de Maddy. Et il raconte aussi qu'il a reçu un appel téléphonique d'une demi-heure, en début de soirée, donc... peu de temps avant la disparition de Maddy, ils vont diffuser le numéro de téléphone qu'il utilisait à l'époque, ils vont diffuser le numéro de téléphone de la personne qu'il a appelé. On appelle à témoin, ils ont « Qui est cette personne ? Aidez-nous à identifier qui a passé ce coup de téléphone ?» Assez suspect, une demi-heure avant, juste à côté. Et ils vont également dévoiler les photos de deux de ces véhicules, une Jaguar et un van blanc et jaune, en disant « Voilà, ces véhicules sont rattachés à l'enquête, aidez-nous, peut-être vous avez des éléments là-dessus. » C'est quand même assez précis, parce qu'il y a un profil, il y a le fait qu'il était sur place, et il y a des pièces à conviction, et on aimerait bien en savoir plus.
Timothée Boutry, vous l'appelez Christian B, car il n'est que suspect à ce stade, et dans le journal Le Parisien, vous ne donnez pas son nom de famille. Est-ce que la justice allemande livre une photo de cet homme?
Oui, il y a une photo qui est diffusée, alors qui est soit les yeux sont soit barrés, soit non, enfin, selon les médias qui la diffusent. Il est assez grand, les cheveux courts, un petit peu en brosse, et une barbe blonde de 3 jours.
Il a un lourd passé criminel?
Oui, en fait, il a commencé assez jeune à faire des bêtises, on va dire. Il est mis en cause dans des vols quand il est adolescent et il a une première affaire de nature sexuelle alors qu'il est encore mineur. Il est accusé d'avoir voulu s'en prendre à une petite fille dans un parc et d'avoir baissé son pantalon devant une autre. Il a été condamné d'ailleurs pour ça à 2 ans dans un foyer pour mineurs en Allemagne en 95. Et dès qu'il va avoir 18 ans, il va partir d'Allemagne pour aller justement au Portugal.
Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui ?
On sait qu'il a vécu 12 ans, notamment au Portugal, en Algarve, entre 1995 et 2007. 2007, donc c'est la disparition de Madi. Et que, officiellement, il travaillait un peu dans la restauration, il faisait des petits boulots. Les Allemands dévoilent aussi qu'il était connu pour voler dans des hôtels ou dans des résidences hôtelières de stations balnéaires du Portugal.
Il est soupçonné d'avoir commis des crimes au Portugal ?
Il a fait 2 séjours en prison au Portugal pour des affaires assez mineures, mais surtout, l'an dernier, il a été condamné en Allemagne pour une affaire de viol commise au Portugal en 2005, donc 2 ans avant la disparition de Madi, après Yadalouche, justement. Il a été condamné en Allemagne à 7 ans de prison pour avoir violé une femme de 72 ans, une touriste américaine qui réside dans une villa près de la plage.
Pourquoi la justice allemande le suspecte de l'enlèvement et de la mort de Madi McCann ?
Au départ, il y a en 2017 la diffusion d'un documentaire à la télé allemande sur les 10 ans de la disparition de Madi. Et Christiane B. se serait épanché en regardant le documentaire en disant « Mais moi je sais des choses, je sais tout sur cette histoire. »
Auprès de qui se serait épanché ?
D'un de ses camarades de boisson, de soirée, de ce soir-là. Il a dit « Mais non, mais je le sais. » Et cet homme-là est allé voir la police. Et compte tenu des antécédents de Christiane B., la piste a été creusée, ce qui a permis d'en savoir un petit peu plus.
Alors, quelle est donc la nouvelle hypothèse privilégiée aujourd'hui ?
Il y a un témoignage selon lequel il aurait été prévenu par un employé de l'Ocean Club que la chambre où se trouvait Madi serait libre ce soir-là puisque les parents allaient dîner. Et comme il est connu aussi pour faire des vols dans des hôtels, peut-être qu'il a été prévenu et qu'il s'est rendu ce soir-là dans cette chambre pour dérober certaines affaires. Et que il s'est retrouvé avec 3 enfants en train de dormir et que son côté de prédateur sexuel, d'agresseur sexuel sur mineur fait qu'il aurait enlevé Madi. Ça fait partie des hypothèses qui sont envisagées.
Le mercredi 17 juin, le parquet de Brunswick dit avoir des preuves de la mort de Madi.
Oui, nous pensons que la fillette est morte. Le suspect a déjà été condamné pour abus sexuels sur des enfants.
Ils pensaient avoir identifié un suspect principal. Et là, ils vont encore plus loin en disant on a des preuves de sa mort, on n'a pas de corps, mais on ne peut pas vous dire quoi, mais vraiment pour nous, elle est morte et on a des indices. Donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus, mais ils sont vraiment allés très loin dans leur communication, les autorités allemandes. Même si, quelques jours avant, ils avaient reconnu qu'ils n'avaient pas d'éléments non plus pour le traduire devant un tribunal. Donc ils ont vraiment un énorme faisceau de présomptions, beaucoup beaucoup d'indices qu'ils ne dévoilent pas. Je pense qu'ils avaient quand même besoin de choses supplémentaires, ce qui fait qu'ils ont lancé un appel à témoins sur ce fameux numéro de téléphone, sur les véhicules qu'ils utilisaient, quoi. Je pense qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. Mais ils détiennent des informations que nous ne connaissons pas, qui leur permettent quand même d'aller vraiment très loin dans l'expression de leurs convictions. Je pense qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça, de dire voilà, on a des preuves de la mort de Madi.
Timothée Boutry, vous rentrez du Portugal. Que disent les Portugais de ces tout derniers développements ?
À vrai dire, j'ai été surpris de constater que l'opinion que j'avais recueillie en 2007 n'a pas vraiment varié, à savoir qu'il y a toujours une très forte suspicion à l'égard des parents de Madi. À chaque fois revient cette idée selon laquelle on ne laisse pas ses enfants le soir pour les dîners. Donc ça, vraiment, ça ne passe pas. Et partant de là, chacun y va de son hypothèse, de sa théorie. Oui, regardez, son expression de son visage, c'est pas net. Ils ont prévenu les médias, c'est pas net. Enfin voilà, à partir de ça, beaucoup de gens brodent quelque chose, mais j'ai vu beaucoup d'habitants de Praia da Luz qui sont très circonspects. L'allemand, c'est de la flûte, on n'y croit pas. Bon voilà, il y a une réticence. Après, ce qui va compter, c'est les éléments objectifs du dossier. On a un parquet allemand qui est très offensif, qui dit avoir des preuves. Donc voilà, évidemment, on demande qu'à les croire.
Les parents, ils ont réagi ?
Les parents ont réagi aux premières révélations des autorités allemandes en indiquant que voilà, ils prenaient acte, ils sont satisfaits que l'enquête se poursuive et qu'ils n'ont pas perdu l'espoir de retrouver leur petite fille en vie, même s'ils indiquent également qu'ils sont réalistes.
Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Genest, production Myrène Garay-Coetchea, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.